L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Maître Arnaud Develet, juriste en droit international, consultant politique et journaliste indépendant. Avec lui, nous allons discuter de la place et du rôle que pourrait jouer le mouvement des pays non alignés dans le contexte de l'émergence de plus en plus marquée d'un monde multipolaire. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Depuis le démembrement de l'Union soviétique en 1991 et la fin de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, le mouvement des pays non alignés avait pratiquement disparu de la scène internationale, bien qu'il ait continué à subsister hors de l'attention générale. Cependant, dans le sillage du début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, la majorité des pays d'Afrique, de l'Asie, du Moyen-Orient et de l'Amérique latine a refusé de s'aligner derrière l'Occident pour sanctionner la Russie. Cette position courageuse des pays que l'on désigne actuellement comme le Sud global a redonné sens et vie à l'idée de non-alignement avec le même enthousiasme des conférences de Bandung en 1955 et de Belgrade en 1961, ayant donné naissance au mouvement des pays non alignés dans le contexte de l'opposition entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. Aujourd'hui, comme à l'époque de la guerre froide, une majorité de pays du Sud global refusent de s'inscrire clairement dans un camp ou dans un autre et préfèrent se rapprocher les uns des autres pour faire valoir leurs intérêts spécifiques, notamment autour des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai. De même que, durant la guerre froide, l'Ouest accusait souvent le mouvement des pays non alignés d'être instrumentalisé par Moscou, il déplore aujourd'hui le refus de beaucoup de pays du Sud, notamment africains, de s'associer aux sanctions contre la Russie et à condamner son opération spéciale en Ukraine. Dont des pays comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis refusent de sacrifier leurs intérêts sécuritaires et de développement pour sanctionner la Russie. Plus important encore, ils pensent que leur pouvoir de négociation dans la nouvelle guerre froide leur permettra d'obtenir de l'Occident des accords plus intéressants en matière de commerce, de technologie et d'armement. Ces pays représenteront les trois quarts de la population mondiale et 60% de l'économie mondiale d'ici 2030. Ils aspirent à une domination régionale et pensent qu'une position non alignée sert mieux leurs intérêts. Quel est l'objectif de leur politique de non-alignement? Premièrement, alimenter leur croissance future en obtenant de nouvelles technologies. Deuxièmement, consolider leur sécurité par le transfert de matériel militaire avancé. Puis, renforcer, troisièmement, leur pouvoir de négociation dans le cadre d'accords commerciaux avec une Europe dépendante des exportations et les États-Unis à la recherche d'alliés géoéconomiques dans un bloc anti-Chine et anti-Russie. Quatrièmement, sécuriser les produits de base essentiels tels que les denrées alimentaires, l'énergie, les métaux et les engrais du nouveau bloc russo-chinois. Enfin, améliorer leur position dans les négociations sur la restructuration de la dette envers les créanciers occidentaux et chinois au cours d'une crise mondiale de la dette en dollars qui menacerait leur souveraineté. Pour approfondir ce sujet de la géopolitique mondiale, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Maître Arnaud Develet, juriste en droit international, consultant politique et journaliste indépendant. Maître Arnaud Develet, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour à vous.
Bien, alors la première question sur cette question, ce retour de l'idée de non-alignement dans le contexte géopolitique mondial, j'aimerais bien vous citer quelque chose qui est très symbolique parce qu'elle émane des deux pays les premiers fondateurs de justement de ce mouvement-là dans les années 50 et 60. Alors, le 25 mars, c'est-à-dire quelques semaines après le 2022, après le début de l'opération spéciale militaire russe en Russie. Alors que donc l'opération militaire spéciale menée par la Russie en Ukraine s'intensifiait, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s'est rendu à New Delhi et a déclaré « Si la Chine et l'Inde parlent du sans-le-voix, le monde entier les écoutera. Si la Chine et l'Inde se donnent la main, le monde entier y prêtera attention. » Bien. Alors ma question, qu'en pensez-vous d'abord de cette déclaration? Et puis, la Chine et l'Inde, jadis moteurs du non-alignement, bien qu'ils aient beaucoup de divergences, ils avaient déjà beaucoup de divergences, peuvent-ils, avec la Russie, redonner sans sévir au mouvement de non-alignement?
Alors, c'est une question très très large. Je pense qu'il convient d'abord de commencer par le début et de rappeler à nos auditeurs ce que c'était que le mouvement des non-alignés. Donc, il faut comprendre que le mouvement dit des non-alignés, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, en fait, ça commence par une rencontre entre trois dirigeants historiques du XXe siècle, certains diront des géants, qui étaient Nehru, Nasser et le troisième Tito.
Tito. Ouais.
Voilà. Donc ça, c'était en 1956, en fait, un an après Bandung.
Uh-huh.
Voilà. Et à l'époque, il était donc question, dans un contexte de décolonisation, et alors même que la guerre froide commençait à s'intensifier, de poser les bases d'un groupement, on va dire, de pays qui souhaitaient privilégier le développement, l'éducation, et on y reviendra, la non-appartenance idéologique à l'un ou l'autre des camps, alors en présence dans un contexte bipolaire. Vous l'avez mentionné, l'organisation devient vraiment effective en 1961, donc à la conférence de Belgrade. Elle compte à l'époque 23 membres et elle n'a cessé de croître depuis pour atteindre aujourd'hui 120 membres, plus deux organisations, on va dire intergouvernementales. Certains pays comme la Chine qui sont en statut d'observateur, ainsi que le Brésil, je crois. À partir de là, la question se pose de savoir si on peut prendre ce qui s'est fait à l'époque avec des dirigeants comme Sukarno, et transplanter, si je puis dire, ce moment dans le temps à l'époque contemporaine. J'argue personnellement que ce n'est pas forcément le cas. Pour la raison très simple, c'est que aujourd'hui déjà, ce qui définissait le monde bipolaire de l'époque n'existe plus. L'idéologie marxiste-léniniste, même si il reste quelques îlots ici et là, a plus ou moins été reléguée dans les proverbiales poubelles de l'histoire. Et aujourd'hui, le réalisme qui caractérisait les élites otanesques a été remplacé, au contraire, par une espèce de messianisme néoconservateur qui, certains diraient, représente un peu l'acmé de l'impérialisme qui était l'un des principes contre lesquels le mouvement des non-alignés avait été initialement créé. Dans un contexte maintenant où ça fait déjà 60, 70 ans que les indépendances ont été réalisées et que à la lumière de certains événements, notamment dans les années fin des années 70, avec l'Égypte par exemple qui signait cette paix séparée avec Israël, il y a eu des grosses frictions au sein du mouvement des non-alignés. On a vu aussi que on reproche à certains pays, en fait, d'être plutôt pro-soviétiques ou plutôt socialistes.
Ouais.
C'était une des questions, d'ailleurs, lors de la conférence à Cuba. Dans ce contexte-là, si on doit vraiment faire le bilan d'un bénéfice net et d'un résultat net qui a été accompli à partir du mouvement des non-alignés, c'est la remise en cause du consensus économique, en fait de la dette, hein, à travers la Banque mondiale.
Et puis la promotion de l'idée d'un nouveau...
D'un nouvel ordre mondial, économique
mondial.
C'est ça, voilà.
Avec,
ça,
l'Assemblée, avec la conférence des Nations Unies du...
74.
De 74,
tout à
d'avril
fait.
De 74.
Voilà, qui a ensuite été plus ou moins reprise par le groupe 77, mm-hmm. hein, avec plus ou moins divers degrés de succès, mais enfin voilà. C'est quand même essentiellement ce qui reste de mmh. cette première mouture du mouvement mmh. des noms alignés. Après, effectivement, ce qui a toujours été un problème dans le cadre de ce groupement de pays, c'est la nature de ces engagements et les critères qui caractérisaient l'admission mmh. eu égard à ces engagements. Si on prend par exemple les engagements qui portaient sur, à l'époque, la non-appartenance à un bloc ou l'autre, que ce soit au niveau multilatéral ou bilatéral, on s'est aperçu qu'il y a des pays, par exemple comme l'Indonésie, qui avaient des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni, et ça ne les empêchait pas, membres de l'OTAN, ça n'a pas empêché de joindre le mouvement des non-alignés.
Ouais. Et avec les États-Unis par la suite.
Exactement. Donc... Mmh. Il n'y avait pas vraiment dans un contexte où ces critères d'admission étaient eux-mêmes mm-hmm. assez flous et pas forcément appliqués de manière rigoureuse.
Mais Arnaud Develay, je souscris à ce que vous venez de dire, bien sûr, en particulier sur le plan idéologique, c'est-à-dire que le clivage n'existe plus. Mais disons, dans ce qui se passe actuellement,
oui.
par rapport à ce qui se passe actuellement. Est-ce que cette organisation, même si actuellement ressemble un peu à une coquille vide, est-ce qu'on pourrait pas la remplir avec quelque chose de nouveau qui va permettre à ces pays du Sud qui cherchent à se positionner dans la nouvelle architecture mondiale à avoir droit de cité pour défendre leurs intérêts et leur population. Donc à ce titre, j'aimerais quand même parce que par rapport à ce qu'ont dit les ministres chinois et indiens lors de cette conférence de presse, que je trouve très importante. Alors en avril, alors c'est tenu en mars 2022. Et en avril, c'est-à-dire quelques semaines après, on a Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, qui a effectué un voyage en Inde où elle a négocié un vaste programme d'investissement allant de la défense à la production verte. On met lors d'une tournée de 3 jours en Allemagne, au Danemark et en France, le Premier ministre indien Narendra Modi a obtenu des concessions que les responsables politiques indiens souhaitaient depuis plus de 2 décennies. 7 chefs d'État européens ont accepté des investissements dans le domaine du climat, des transferts de technologies, des contrats d'armement, donnant ainsi la substance nécessaire à l'établissement d'un partenariat stratégique Union européenne-Inde, jusque-là relativement peu développé. Alors, ce cas-là qui est concret. Alors, comment peut-on l'analyser et comment peut-on aussi analyser ce comportement des dirigeants occidentaux à l'égard de l'Inde qui a refusé de condamner la Russie dans ce cas? Et puis, est-ce la preuve que l'idée de non-alignement est devenue très porteuse en termes de négociation, au moins de négociation des intérêts actuellement?
Chaque pays a une politique étrangère multivectorielle. Et vous citiez l'exemple de l'Inde qui s'est rapprochée de l'Union européenne alors que ça faisait 20 ans qu'elle frappait à la porte. N'oubliez pas que récemment, Henry Kissinger nous a quittés. Henry Kissinger avait bâti l'un des piliers de la politique étrangère sous son administration. Visait à faire en sorte que jamais l'Union soviétique et la Chine ne se rapprochent. Mmh. Or, le tour de force des néoconservateurs, c'est d'avoir réussi à braquer les deux pays de telle sorte que, sans parler d'alliance, il y a quand même un partenariat stratégique entre les deux pays qui fait que les États-Unis, maintenant, se retrouvent plus ou moins, on va dire, mis de côté. En tout cas, montrés du doigt comme étant un élément perturbateur dans le désir de ces pays, au départ, de faire du business avec tout le monde, d'avoir des relations apaisées avec tout le monde. Mmh. Mais leur bellicisme, je parlais du néoconservatisme qui prévaut à Washington maintenant, c'est quelque chose que vous n'auriez jamais vu à l'époque de Kissinger, où on était quand même en présence de gens qui avaient une certaine hauteur d'esprit sur les faits géopolitiques. Et donc, partant de là, effectivement, je pense qu'il a été intégré finalement parmi les soi-disant élites à Bruxelles et Washington, que faute d'avoir pu empêcher un rapprochement entre Pékin et Moscou, si en plus de ça on devait maintenant avoir New Delhi
qui
se sentir eux aussi plus ou moins pointés du doigt ou mis en accusation ou soupçonnés de je ne sais quelle intention obscure à se rapprocher des deux géants. Ça fait trois géants maintenant. Donc voilà, ils ont commencé à comprendre et je crois que c'est d'ailleurs l'objectif maintenant, c'est visiblement d'essayer de... Parce que bon, avec les Occidentaux, il faut bien comprendre, on n'est pas dans la construction, on est toujours dans la division. Hein. Mm-hmm. N'oubliez pas qu'ils ne représentent que 15% de la population mondiale. Que les G7, c'est à peine maintenant un tiers du PIB mondial.
Ouais, ouais.
Hein. Donc, ils sont sur la défensive et, si je puis dire, la seule porte, la stratégie qui leur reste, c'est d'essayer de retarder le déclassement. Et pour ce faire, c'est effectivement d'essayer de privilégier certains partenariats bilatéraux avec l'un ou plusieurs des trois, des gros trois, de façon à créer des frictions entre ces géants. Mmh. Frictions qui permettraient, enfin, dont on peut le présumer, tirerait avantage l'Union européenne et ou les États-Unis. Plutôt les États-Unis, puisque l'Union européenne est... On l'a vu dans le cadre de l'affaire ukrainienne, plus ou moins à la remorque de Washington, et politiquement, on ne compte pas. Et si les gens en Occident pensent que l'Union européenne, même économiquement, a au moins un répondant équivalent à celui de Washington, on n'a qu'à voir la politique menée par les dirigeants de l'Union européenne qui va à l'encontre de leur propre pays pour favoriser Washington, pour réaliser que Washington n'a aucune compulsion, enfin aucun scrupule à sacrifier l'économie européenne et le confort matériel de ses habitants pour vassaliser le continent et s'assurer que leurs avantages propres, géostratégiques, leurs intérêts, leurs objectifs sont préservés.
Là, justement, vous me donnez la perche pour la suite. À Berlin, alors, quand le Premier ministre Modi est arrivé, le chancelier Olaf Scholz a annoncé un partenariat de 10 milliards d'euros pour aider l'Inde à atteindre ses objectifs, soi-disant climatiques, à l'horizon 2030, et à réaliser des transferts de technologies de pointe. C'est ça qui, je pense, intéresse le plus l'Inde. À Copenhague, les pays nordiques ont signé des accords sur l'énergie éolienne et solaire, ainsi que des investissements dans le transport maritime et les villes vertes. À Paris, Emmanuel Macron, chose qui est très importante, a signé un accord visant à investir dans l'hydrogène verte et a donné un coup de pouce aux accords franco-indiens dans le domaine de l'aéronautique et de la construction navale, tandis que EDF a accéléré un partenariat depuis, qui était un peu en suspens depuis longtemps pour la construction de 6 réacteurs EPR en Inde. Et ces accords font suite à l'important accord d'investissement de 42 milliards de dollars conclu entre l'Inde et le Japon pour des véhicules électriques, hydrogène, l'ammoniac et je ne sais quoi. Bien. Alors, le calendrier de ces importantes concessions est-il un hasard ou une grande habileté de Modi qui négocie astucieusement un ordre mondial émergent dans lequel le divorce entre la Chine, la Russie d'un côté et l'Occident de l'autre offre une opportunité pour conclure de nouveaux accords et instaurer de nouveaux équilibres. Et ça peut quand même inspirer pas mal de pays qui se trouvaient avant sur la touche à agir d'eux-mêmes.
Oui, certainement que c'est le cas et que certains pays seront tentés de tirer avantage de ce qu'on commence déjà à appeler une deuxième guerre froide. Maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans un contexte qui voit les élites occidentales, ceux de la gouvernance mondiale en tout cas, prendre en compte le fait qu'ils seront à la tête d'un bloc occidentaliste qui sera économiquement, on va dire, pas en mesure de garder la cadence avec les géants émergents et les économies telles que la Chine, qui est quand même, certains disent la deuxième au monde, je pense que c'est la première au monde en ce moment, l'atelier du monde, hein. La Russie avec son potentiel de ressources énergétiques infinies, et l'Inde avec sa capacité à éventuellement intégrer certains éléments, on va dire, de la gouvernance globale. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'il faut se méfier de l'Occident. On avait un proverbe qui dit « Méfiez-vous des Grecs qui viennent frapper à votre porte avec des cadeaux dans les mains. » Et dans ce sens-là, vous avez évoqué une série de transactions. Ce que je retiens, c'est que...
Et puis,
que
c'est des technologies avant que l'Occident n'a jamais acceptées.
Il est question de quoi ? Il est question d'hydrogène, il est question de voitures électriques, il est question de...
D'aéronautique, de nucléaire...
Certes, c'est un mixed bag, comme on dit.
Ouais.
Enfin, on voit quand même l'idée que on retrouve quand même des éléments de langage de l'agenda 2030. Hein, donc c'est le forum de Davos.
Ouais.
Donc c'est la décarbonisation. N'oubliez pas que l'idée de ce que certains ont appelé cette grande escroquerie du réchauffement climatique, hein, vise avant tout pour les pays occidentaux à empêcher ces pays de se développer, avec l'idée de dire vous polluez trop. On va vous donner un peu de flexibilité parce qu'on comprend que vous avez besoin de plus ou moins rattraper votre retard. Mais quoi qu'il en soit, vous ne serez jamais en mesure de vivre et de consommer comme nous l'avons fait. Vous voyez ? Donc là, ils s'aperçoivent qu'il y a eu la résistance à ce discours. Mais ça n'empêche pas que l'idée, c'est on vous donnera accès à des technologies de gamme, de haute gamme. Mais vous aurez à charge pour vous d'intégrer certains des préceptes que nous prenons, à savoir la désindustrialisation et, en fait, la défossilisation.
Hein. C'est un peu une sorte de cadeau empoisonné.
Quand vous considérez, par exemple, que l'Inde a acheté énormément de pétrole à la Russie, qui a certainement permis à cette dernière de contourner l'effet des sanctions, vous comprenez que si on peut permettre à l'Inde d'avoir une dépendance moindre par rapport aux énergies fossiles, ça n'aura de cesse d'impacter la Russie de manière négative. Donc, il faut bien comprendre les objectifs moyen long terme, la façon dont les synergies actuelles sont étudiées comme étant de nature à être modifiées dans un court moyen long terme par les élites de la gouvernance globale, de telle sorte que la Russie puisse être neutralisée économiquement, puisque n'oubliez pas que l'objectif de ces gens-là, c'est que la Russie, avec son potentiel infini de ressources naturelles, c'est vraiment le prix ultime pour ces gens-là. Et que d'une manière ou d'une autre, ces gens-là voient le temps long. Donc ils savent que pour l'instant, c'est, entre guillemets, c'est mort, mais ces gens-là, ils planifient 30, 40, 50 ans.
Mais même pour l'Inde, qui a quand même 1,5 milliard de...
Mais justement, l'Inde n'est pas...
Qui a besoin de développer massivement son
économie. Oui, absolument.
Parce qu'il y a beaucoup de... C'est des centaines de millions qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Oui, mais l'Inde a déçu beaucoup d'experts qui avaient des attentes énormes par rapport à son potentiel humain. Si vous regardez les deux pays qui étaient donc la Chine et l'Inde au début des années 70, lorsque Deng Xiaoping arrive en 79-78, il instaure les quatre piliers et essentiellement au travers de cette maxime où il dit qu'il n'a aucune différence que le chat soit noir ou soit blanc tant qu'il attrape la souris.
Oui.
Hein? Bon, et c'est ce qu'on a vu ensuite, le capitalisme d'État. Un capitalisme dirigé, où c'est essentiellement certains principes restent plus ou moins axés sur le socialisme, mais dans les faits, c'est enrichissez-vous, c'est glorieux. C'était ça la maxime. Et on voit que la Chine a décollé. Les infrastructures, le commerce extérieur, le PIB, bien sûr, les avoirs, qu'on retrouve maintenant dans des investissements, c'est 1 500 milliards de dollars d'avoirs souverains. la Chine. Mm-hmm. Le projet de routes de la soie, c'est 400 milliards de dollars investis dans les infrastructures. Donc il y a une projection. L'enrichissement et la prospérité chinoise depuis 45 ans fait que le confucianisme qui portait sur on ne se préoccupe pas trop de ce qui se passe à l'extérieur, on se concentre sur nous-mêmes, ce n'est plus viable maintenant. Les élites chinoises ont été obligées de revoir le logiciel fondamental, l'ADN idéologique et culturel et anthropologique chinois, qui voyait que, au travers du confucianisme, il était mal vu d'avoir des visées au-delà des océans, si je puis dire. Mmh. Bon, maintenant, vous avez des responsabilités. Vous êtes la première puissance économique mondiale. Vous êtes perçu comme un adversaire stratégique par certaines puissances occidentales sur le déclin. Et vous avez les moyens de maintenir le commerce et avec le commerce, la stabilité mondiale. Dans ce contexte-là, si on fait un contraste avec l'Inde, l'Inde a vu sa population exploser, et les infrastructures ne sont pas au rendez-vous. Il y a des problèmes...
De pauvreté, beaucoup de
pauvreté, mais qui est basé sur quoi aussi ? Qui est basé sur un système de caste. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on a parlé de socialisme sous la dynastie de Gandhi. Hein, mais dans les faits, ces aspects anthropologiques demeurent extrêmement résistants. Et à part la caste des brahmanes, il n'y a pas beaucoup de gens qui bénéficient, qui ont bénéficié de la mondialisation depuis 30 ans.
Alors, mais dans la situation actuelle, avant qu'on termine la première partie de notre entretien, si l'on joint le Brésil de Lula, je ne parlais pas de Bolsonaro, de Lula da Silva, l'Afrique du Sud, la Russie, l'Indonésie, l'Iran et l'Arabie Saoudite, peut-on dire que les pays du Sud, notamment africains, ont un espace énorme, et où ils pourraient valoriser, dans les négociations, à l'image de ce que fait l'Inde et la Chine, avec les différents blocs, leurs ressources humaines et naturelles?
Encore une fois, écoutez, si on prend l'exemple des élections récentes en Argentine, on s'aperçoit que l'Argentine, qui devait normalement joindre les BRICS au mois de janvier, vient déjà d'annoncer que, alors tout le moins, il a mis un peu d'eau dans son vin, mais enfin, en tout cas, s'il le joint, ce sera en tant qu'observateur. Hein. Donc déjà, on s'aperçoit que, et il a, je parle du président Milei, hein, qui vient d'être élu, il a été assez clair qu'il s'alignait sur
Washington.
Donc je pense qu'il faut être prudent. C'est comme lorsqu'on parle des BRICS comme étant une espèce de structure ordonnée avec des institutions qui sont quasi politiques.
Ce qui n'est pas le cas actuellement.
C'est un groupement de pays 5 au départ, 11 au mois de janvier, on peut le penser, 20 et des poussières d'ici 2 ans, qui a vocation à rassembler des potentiels humains, énergétiques, technologiques et scientifiques, avec l'idée de créer des opportunités de financement qui ne dépendraient pas des institutions de Bretton Woods. Mmh. Pour faire court, c'est ça le BRICS. C'est avoir des options ouvertes, des alternatives. Avec bien sûr cette idée de renforcer la souveraineté des pays qui seraient tentés de joindre le grouping. Mais on est loin d'une structure genre l'Union européenne.
Absolument.
C'est pas du tout ça. Si l'idée c'est de faire de l'économique au départ, comme on a vu au départ... La CEE, c'était ça. En 1957, c'était la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et à partir de là, ça a été un socle au-delà duquel s'est étendu les prérogatives. Les membres de l'Union ont commencé à s'étendre pour ensuite transférer petit à petit, au travers des traités qu'on a pu voir, Maastricht, Amsterdam, Lisbonne, leurs prérogatives à un organisme centralisé qui maintenant... montre son vrai visage et rend en fait tous les pays membres comme des coquilles vides. Puisqu'on l'a vu dans le cadre du conflit en Ukraine, on voit que von der Leyen, vous l'avez mentionné, bon déjà elle signe des contrats derrière notre dos, avec des géants pharmaceutiques, mais elle s'est arrogée un pouvoir régalien presque au niveau de la défense, au niveau de la politique étrangère, alors que Normalement, les États constituant les États membres ont encore cette prérogative. Donc on voit qu'maintenant, ils essayent de changer le système de vote à l'unanimité sur des questions importantes, que ce soit du budget, par exemple pour payer les 50 milliards à l'Ukraine. Orban a déjà dit non, la Pologne aussi. Eh ben, on fera sans eux. C'est-à-dire qu'on passe cette espèce. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, bon, là, on est vraiment, mais c'est entre 57 et maintenant, c'est presque 70 ans. Donc, qu'est-ce que les BRICS seront? Les BRICS, ça a été fondé dans les années 2000, 2005. Est-ce qu'en 2075, les BRICS à 40 seront une organisation politique avec des institutions?
C'était en 2009, je crois. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, Maître Arnaud Dublé, pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Spoutnik Afrique. Avant de rendre le micro à Maître Arnaud Dublé, chers auditeurs, permettez-moi de vous faire écouter l'intervention d'Idriss Hamid, expert en affaires africaines, qui a commenté à Spoutnik Afrique l'envoi gratuit de céréales russes aux pays africains. En effet, le premier navire russe chargé de céréales est arrivé en Somalie. Une cargaison de 25 000 tonnes a été remise aux autorités de ce pays, dont les prochains jours, le navire devrait également livrer la même cargaison au Burkina Faso. D'autres navires chargés de céréales à destination du Mali, de la RCA, de l'Érythrée et du Zimbabwe partiront avant la fin de l'année. Pour rappel, suite à la suspension de l'accord céréalier en juillet dernier, Vladimir Poutine avait promis lors du dernier sommet Russie-Afrique, d'envoyer à titre gratuit des céréales aux pays africains les plus pauvres dans les prochains mois.
Le monde traverse une grave crise économique causée par les événements en Ukraine. Il y a donc des problèmes d'approvisionnement en blé et de sécurité alimentaire. Certains pays occidentaux, dont les États-Unis font naturellement partie, profitent de la situation difficile d'autres États pour contrôler les marchés mondiaux et l'économie mondiale dans son ensemble. Autrefois, l'URSS entretenait des relations étroites avec divers pays du monde, en particulier avec l'Afrique. La Russie, à son tour, dans la continuité de cette tradition, est devenue un partenaire stratégique important et indispensable pour de nombreux États africains, y compris le peuple somalien, qui a reçu une aide financière de la part du président russe, Vladimir Poutine. Quant au rôle de la Russie dans l'intégration des pays africains, il est extrêmement important dans ce processus. Il est urgent de mettre fin à l'hégémonie américaine et à l'ordre mondial unipolaire. L'Afrique en a assez d'être contrôlée de l'extérieur, et c'est Moscou qui peut apporter la prospérité au continent africain.
C'était Idriss Hamid, expert en affaires africaines. Il a commenté pour Spoutnik Afrique l'envoi gratuit de céréales russes aux pays africains. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Spoutnik Afrique. Arnaud Dublé, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre émission.
Merci à vous.
Bien. Alors, la première question, j'aimerais bien maintenant qu'on aille un peu, disons, dans la profondeur des choses. Il y a quand même ce changement de paradigme, bien qu'il n'est pas vraiment très établi, mais la dynamique, en tout cas, elle est enclenchée. Nous ne pouvons pas dire que, depuis l'opération spéciale russe, les choses continuent dans ce monde à évoluer comme elles ont déjà évolué avant. Et on voit des manifestations musclées du pouvoir des non-alignés, si l'on peut qualifier comme ça. Non-alignés constituent une force de contrepoids aux sanctions américaines. Par exemple, les États-Unis ont tiré parti de leur place au cœur du système financier mondial pour influencer les ventes mondiales d'armes, par exemple, en menaçant tout client des armes russes de recourir à la guerre économique. On a vu les menaces contre l'Indonésie, puis les menaces quand l'Indonésie avait décidé d'acheter des Sukhoi 35, et puis elle a été obligée de les abandonner. Les menaces contre l'Inde, quand l'Inde a acheté des S-400 antiaériens russes, et ainsi de suite. Alors, étant donné ce dictat financier, parce que là, on arrive au cœur du problème. On peut bien parler de non-alignement ou de changement de paradigme, mais disons les choses comme elles sont, beaucoup de pays, pour ne pas dire la majorité, sont encore tenus par le dictat du dollar. Et personne n'arrive encore à s'en défaire complètement. Alors, étant donné ce dictat financier américain, la dédollarisation, à votre avis, reste-t-elle la meilleure façon de changer de paradigme dans les relations internationales? Est-ce que ce n'est pas ça vraiment le cœur du problème dans toutes les alliances qui peuvent se tisser, qui se sont tissées ou qui peuvent se tisser dans le futur? Si ce cœur-là n'est pas renversé ou qu'il n'y a pas une autre façon de mener les choses, est-ce qu'on peut vraiment, comme les Américains ont sanctionné la Russie, et ils ont menacé l'Inde, ils menacent les Chinois, ils menacent tout le monde avec leur monnaie.
Oui, bah encore une fois, je citerai, c'est De Gaulle qui parlait du privilège exorbitant du dollar à l'époque, et Kissinger qui disait, mais c'est votre problème, c'est notre avantage.
C'est notre monnaie, et c'est votre problème.
Donc effectivement, ça a toujours été l'arme principale des États-Unis dans leur façon d'asseoir leur hégémonie dans les relations internationales. Et cela tout en ayant découplé le dollar en 71 pour ensuite créer cette espèce d'étalon pétrole-dollar avec des accords de Quincy Plus, si je puis dire, qui voyait le prix du crude être indexé automatiquement sur le dollar. Mais ça, c'est en train de changer maintenant. Petit à petit, déjà, il faut comprendre que le régime de sanctions qui a été imposé à la Fédération de Russie, pas juste à partir de l'opération militaire spéciale, mais depuis 2014, est le plus compréhensif dans l'histoire du monde en temps de paix, puisqu'officiellement l'OTAN ou les États-Unis, de manière plus spécifique, n'ont jamais déclaré la guerre à la Russie, mais de facto, on est dans un état de guerre, puisque des sanctions économiques de cette amplitude et de cette intensité constituent en droit international un acte de guerre. N'oubliez pas que le Japon a fini par répondre militairement parce qu'il était lui-même étouffé, de telle sorte que... Voilà. Donc, faut garder ça à l'esprit. Mais la Russie, de par ses ressources, comment dirais-je, parce qu'on parle toujours du PIB, il y avait une sous-estimation de l'économie russe, rappelez-vous. Les déclarations de Bruno Le Maire qui disait que voilà, ça allait s'effondrer comme un château de cartes. John McCain qui disait que ce pays n'était en fait qu'une station-service masquerading as a state, comme on dit, hein, comme, qui apparaît comme un État. Et tout le monde, tous ces gentlemen se sont cassés les dents sur leur préjugés. Pourquoi ? Parce que la Russie, c'est un potentiel industriel, une ressource naturelle qui lui permet, dans les faits, d'avoir un pouvoir d'achat important et de pouvoir générer des revenus. La Russie n'a aucune dette, par exemple. Je crois que si elle s'endette pour des infrastructures en interne, c'est à hauteur de 17%, ce qui est quasiment nul. Donc c'est une économie saine, avec des secteurs stratégiques protégés par un pouvoir fort, et qui permet donc d'avoir une économie comme on voyait en France à l'époque du général de Gaulle. Une espèce de mix entre le capitalisme à papa, d'entreprise, et un dirigisme d'État qui permet d'avoir une orientation globale qui soit cohérente avec le développement du pays. Maintenant, vous avez mentionné les sanctions. Alors, les sanctions, comme dirait l'autre, trop de sanctions tuent les sanctions. Puisque ce qu'on a pu voir au travers de la capacité de la Fédération de Russie à complètement retourner les sanctions contre ceux qui les avaient émises,
ouais.
C'est un peu un bras de fer, c'est une espèce de, qu'on appelle un Mexican stand-off. Hein. On avait trois personnes qui, l'une braque l'autre et braque l'autre, et c'est le premier qui cligne, qui perd. Quoi. Et c'est ce qu'on a vu, et avec des résultats maintenant où le bras de fer, ils n'arrivent pas à tenir la pression, je parle des Occidentaux de manière générale, parce que il y a une inflation énorme aux États-Unis en ce moment, galopante.
Absolument.
Alors, le prix à la pompe...
Et il y a aussi de très très grandes craintes par rapport à la dette privée, par rapport à la dette des étudiants.
Vous avez mentionné ensuite la dédollarisation, qui est effectivement quelque chose qu'on est en train de voir en temps réel. Parce que l'opération militaire russe spéciale en Ukraine, c'est aussi le signal d'une insurrection mondiale. Mm-hmm. Que ce soit dans les rapports entre pays, par exemple au Moyen-Orient, on a vu un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, on a vu le prince saoudien qui est de facto... celui qui tient les rênes dans ce pays, qui a annoncé plusieurs fois qu'il allait diversifier la façon dont il vend son pétrole pour intégrer le yuan, par exemple. Mm-hmm. Donc ça, c'est quelque chose qui aurait été considéré impensable.
Les menaces américaines contre l'Inde oui. Sur l'achat des S-400. Bon, quand j'ai fouliné le sujet, c'est qu'en fait, c'est pas les S-400 en tant que tels qui les ont dérangés. Parce que l'Inde a déjà acheté plusieurs fois des armes russes, comme les avions, les F-35 et d'autres. Mais c'est le fait que l'Inde a payé le S-400 en roupies. C'est ça qui a fait fulminer un peu l'administration américaine.
Ça, et puis je pense aussi que c'est aussi un exemple, une démonstration aussi que le complexe militaro-industriel russe a non seulement rattrapé son retard, comblé son retard, mais a maintenant dépassé celui des États-Unis. À telle enseigne que les F-35 ont démontré qu'ils n'étaient pas du tout à la hauteur. Ils ont raté cette génération d'avions fighter jet. Il faut comprendre, c'est 25 ans pour produire un fighter jet. Cet avion est une tombe volante. C'est-à-dire qu'il il dépend tellement des avionics électroniques.
L'avionique, oui.
Que dès qu'il y a un problème, c'est tout le système qui s'éteint et l'avion tombe comme une pierre. On a vu ça plusieurs fois déjà. Donc, mais bon, parce que, et c'est une des raisons aussi qui explique pourquoi les États-Unis ont essayé de maintenant baisser les masques, si je puis dire, vis-à-vis de l'Europe, en utilisant les derniers ennemis dans l'Union européenne, comme la Pologne, ce que Rumsfeld appelait la Nouvelle Europe, ils vendent leur cargaison à ces pays-là, et ces pays-là payent leur cargaison avec l'argent que leur donne Bruxelles, qui est en fait l'argent des contribuables européens, plutôt que de développer l'industrie aérospatiale européenne. Ouais. Donc on voit bien que tout ça n'a toujours été qu'une arnaque au niveau européen. Cette indépendance politique, militaire, technologique, c'est que du flan, en fait. Mais pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, mais la Turquie aussi. La Turquie a acquis des S-400. Et pourtant, étant membre de l'OTAN, les S-400 ne sont pas compatibles avec les systèmes otanesques. Donc on voit que petit à petit, plus en plus de gens maintenant, on va dire, c'est les indigènes quittent la réserve. Hein? C'est ça qui est en train de se voir. Et ça, c'est contaminant. Et c'est comme un feu de forêt qui se répand partout. Maintenant, on voit qu'en Afrique de l'Ouest, on l'a vu depuis maintenant 2-3 ans, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, ça menace, mais dans d'autres pays comme le Tchad, la République de Centrafrique, enfin, vous voyez, il y a maintenant un désir de s'émanciper de ce qu'on a appelé une forme de néocolonialisme. Avec, comme disait, l'avait très bien expliqué ce grand théoricien qui était mort très, très jeune, malheureusement, à 36 ans. Son nom me reviendra. Enfin, c'est lui qui avait théorisé en fait les élites compradores et le fait que les pays coloniaux, historiquement coloniaux, avaient beau prononcer l'indépendance, mais au travers de leurs entreprises et une certaine caste locale cooptée, ils maintenaient essentiellement leur pouvoir sur les économies et la capacité de ces pays à s'émanciper à travers un développement qui fasse sens. Or là, avec les événements qu'on a vus en Afrique de l'Ouest, on s'aperçoit que les choses bougent très vite.
On peut aussi rajouter la situation au Proche-Orient, où on voit actuellement d'abord Israël qui se casse les dents face à la résistance palestinienne, qui ce n'est pas uniquement le Hamas. L'opération du 7 octobre, c'est toutes les factions de la résistance palestinienne. C'est vrai que le Hamas a donné le plus grand nombre de combattants et d'armes, mais toutes les factions étaient là. Donc il y a le Tsahal qui est le tête de pont de la présence occidentale dans la région, qui se casse les dents et qui n'arrive plus à se défendre, et toute la région qui est en ébullition. Actuellement, le Yémen bombarde Israël, il ferme le détroit du Bab el-Mandeb, qui est comme un goulet d'étranglement extrêmement important, parce qu'il y a une grande partie de commerce international, notamment du pétrole, qui transite. Donc il y a là, si l'on colle tous les morceaux, on se rend compte que, comme vous le disiez tout à l'heure à juste titre, que l'Occident est en train de complètement perdre le contrôle et de se retrécir, recroqueviller sur lui-même. Et parce que, une dizaine d'années en arrière, jamais le Yémen va bombarder avec des missiles balistiques. Et donc, on se rend compte que finalement, personne n'a peur de...
Ce que je pense aussi surtout, c'est que... Et encore une fois, on en revient au thème de l'émission, hein, qui était bon, le mouvement des non-alignés comme réponse au colonialisme et toute forme d'impérialisme. Est-ce que cet épisode, enfin cette situation que vous évoquez à Gaza, on est en présence d'un régime qui a été couvé pendant des décennies, soutenu, armé, financé, protégé à l'ONU par les démocraties soi-disant occidentales, dont on s'aperçoit que vis-à-vis de leur propre peuple, elles sont plus vraiment démocratiques non plus. Et dans ce contexte-là, on voit que la Russie multiplie les relations, parle à tout le monde, est ouverte au dialogue, sans avoir à imposer des dictats ou des dogmes ou des idéologies, comme on a pu le voir avec l'Occident LGBT vis-à-vis de certains pays d'Afrique, où ça ne passe pas. Et comme je disais un peu plus tôt par rapport à l'Inde, il faut se méfier, hein, encore une fois, parce que il y a toujours une enveloppe idéologique dans tout ce qui a trait à des transactions qui, au départ, apparaissent comme purement économiques. Hein. C'est ça, l'Occident. Et l'Occident, plutôt que de mettre de l'eau dans son vin et peut-être de fermer un peu son caquet, de baisser un peu le volume, non, on dirait en fait qu'ils en rajoutent. Alors, est-ce que c'est lié à la classe, cette génération de dirigeants actuels qui n'a aucune hauteur d'esprit sur la chose géopolitique? Ils sont plutôt en fait des perroquets idéologiques, hein, qui répètent des mantras. C'est peut-être un début d'explication, mais toujours est-il que l'effet direct, net, sur la perception que les gens, de manière générale, peuvent avoir sur le contraste entre ces deux approches, c'est saisissant. C'est que voilà, on se méfie toujours des Occidentaux et on préfère faire du business avec. Avec la Russie, avec la Chine, parce que voilà, c'est du business. Et quoi que certains pourront dire, c'est du gagnant-gagnant. Et si on doit passer par des méthodes alternatives pour effectivement commencer à... Je parle des pays d'Afrique, là, en l'occurrence. Bénéficier de nos ressources naturelles, les vendre au prix du marché plutôt qu'au prix de Bolloré. Ouais. Et se faisant financer les moyens pour nous ensuite de développer nos infrastructures et de rendre notre pays attractif pour l'investissement et de développer surtout l'éducation, parce que c'est ça. Hein. On parlait de... Ça rejoint je fais un peu le retour de la boucle. C'est que c'était un des objectifs avoués du mouvement des non-alignés, c'était l'éducation. On s'aperçoit que l'éducation a été délaissée considérablement dans ces pays. Et pourquoi on a des mouvements de migration énormes? Certes, parce que les pays occidentaux, pour des raisons géopolitiques, déstabilisent, voire détruisent certains pays, créant des flots de réfugiés énormes, mais aussi parce que dans d'autres pays, les ressources ne sont pas redirigées dans le développement interne de ces pays, et donc, pour des raisons de survie, hein, certains sont amenés à quitter le pays et envoyer de l'argent à la famille. D'accord. C'est comme ça que ça marche.
Alors, on peut prendre les pays en développement donc, qui pourraient utiliser les conditions géoéconomiques fluctuantes actuelles, de cette décennie pour s'inspirer des modèles de croissance mis au point au siècle dernier, notamment la politique industrielle et le capitalisme d'État chinois.
Oui, c'est ça, on le voit en Afrique avec le mouvement de libération, enfin le panafricanisme est en train
Les pays africains, dans ce point de vue, ont besoin de mettre sur pied des politiques axées sur la production d'électricité, dont même d'origine nucléaire.
Sans se faire vendre le LGBTisme, tout
voilà.
à fait.
Voilà. Et la construction de routes, de ports, d'écoles, d'universités, d'hôpitaux, de créer les conditions d'un décollage industriel et agricole. L'idée de non-alignement peut vraiment
aujourd'hui. C'est pas le capitalisme, consumérisme américain versus le socialisme.
C'est ça.
C'est la gouvernance globale davosienne avec les normes ESG d'un côté, et effectivement un capitalisme l'État industriel souveraine. Avec les valeurs traditionnelles qui vont avec, où la souveraineté est au cœur du sujet. Enfin,
absolument. Et de ce point de vue, on peut aussi penser que la banque, bien que ce n'est pas encore assez grand et assez établi comme banque de développement, mais la banque de développement des BRICS peut jouer un rôle important dans ce sens. Il y a quand même un contexte qui est très important, et c'est en fait la situation économique des pays occidentaux. On a le montant de la dette américaine, la dette fédérale, qui est environ de 34 000 milliards de dollars, alors que la dette totale, il est allé à peu près de 104 000 milliards de dollars. Ça sont les dettes sur les engagements financiers, parce qu'avec ça, on arrive presque à 200 000 milliards de dollars. Et cette dette-là uniquement globale fait à peu près 400% du PIB américain et 97% du PIB mondial. Donc, dans cette situation, il est clair que l'Occident, les États-Unis, en tout cas, et tout l'Occident qui lui est affilié...
Inféodé, moi je dirais.
Inféodé, oui. N'a pas les moyens de continuer à imposer son dictat. Et je crois que dans le contexte de la débâcle en Ukraine et au Proche-Orient, comme auparavant en Afghanistan, en Irak et en Syrie, un changement de paradigme quand même dans le monde se profile, même si ce n'est pas facile, même si il est clair que l'Occident va continuer à se battre pour maintenir au moins ralentir le changement, mais peut-on dire que le changement est inéluctable ? Et qui peut profiter à beaucoup de pays.
Oui, je pense que le changement a déjà eu lieu. Je pense que l'Occident, aujourd'hui, tel qu'on a pu le connaître, ne serait-ce que si on remonte à il y a une vingtaine d'années, à l'époque de la guerre en Irak, c'est le jour et la nuit, complètement. On a des économies dévastées, rongées par l'inflation, le chômage de masse, un délitement sociétal et anthropologique dans tous ces pays, une montée de l'hyperviolence, des troubles psychiatriques à grande échelle. C'est la chute finale, pas la lutte finale, c'est la chute finale. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que certains de ces processus que je viens plus ou moins d'évoquer succinctement ont été favorisés, promus par des élites, encore une fois, transnationales,
globalistes,
issues de la gouvernance globale, voilà, pour mieux ensuite se présenter comme le remède à ces crises. Donc l'endettement massif, forcément, quand votre créditeur vient vous voir et que vous n'avez plus de quoi rembourser, mais il va se servir en nature. Et c'est ça qu'on appelle ensuite la quatrième révolution industrielle, c'est-à-dire que vous êtes le produit. C'est très clair. Donc, les technologies de miniaturisation permettent maintenant d'investir le corps humain. Vous allez devenir la propriété de... vous êtes en fait rattaché au travers de ces des villes 15 minutes, des villes vertes, reconnaissance faciale, votre vie médicale sera complètement assujettie à ce que l'autorité centrale dira. Vous devrez être à jour de votre vaccination pour voyager. Votre passe carbone ne vous permettra pas de voyager probablement plus de 2 vols par an. Vous aurez besoin d'une permission pour quitter le périmètre des 15 minutes pour aller voir votre tante qui habite à 200 km. Vous n'aurez pas le droit d'avoir votre propre véhicule. Tout sera centralisé par le transport en commun, qui seront tous électrifiés. Et donc, on s'achemine vers une espèce d'utopie régressiste qui va ramener une bonne partie de l'Occident à une ère pré-industrielle, presque agraire. Et si l'agenda 2030 qu'on nous vend ici et là, hein, c'est l'abolition de la propriété privée, hein, c'est déjà des lois qui sont en place en Espagne, ça. Vous êtes propriétaire des murs, mais vous n'êtes plus propriétaire du terrain sur lequel les murs sont construits. Et ah après bon 99 ans, le bien, c'est une reversion vers l'État. Et la France est sur le point. Ce sont des normes qui sont imposées par Davos, encore une fois. Et tous les gouvernements qui sont en place en Occident, leur objectif, leur préoccupation majeure, du fait que les gens qui sont au pouvoir dans ces pays ont été sélectionnés, ce sont des young leaders, leur rôle, c'est d'appliquer l'agenda.
C'est une question d'endettement. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est, je sais pas, j'aimerais bien...
Donc c'est ça l'Occident. Pour répondre à la question, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a une reprise en main. Alors qu'en fait, n'oubliez pas, c'est presque un rapport de classe, c'est l'analyse marxiste. Quand la bourgeoisie est en danger, elle se fascise. Et donc le fascisme digital est la réponse à l'endettement massif des anciens
Justement,
États occidentaux.
Lors du dernier sommet de... C'est pas la dernière rencontre du club de Valdaï, de discussion de Valdaï, Poutine a tenu un discours, le président russe, il a dit un truc qui a beaucoup attiré mon attention, et j'aimerais bien que vous terminiez sur ça. Il avait dit que, enfin, dans le sens que ce qui dérange l'Occident et les mène dans cette direction de guerre contre la Russie, c'est pas parce que la Russie est juste une puissance internationale et qui veut sa place légitime et qui lui revient légitimement comme n'importe quelle, mais c'est parce que avant tout c'est un espace civilisationnel. Parce que la Russie est un espace civilisationnel. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs, il y a une histoire.
La Russie est actuellement, en tout cas, le récipiendaire de tout ce qui a fait l'Europe, la civilisation européenne, bien comprise, jusque dans ses fondements spirituels. Et forcément, dans le narratif que la gouvernance globale davosienne essaye d'imposer aux peuples occidentaux, cette alternative qui existe et qui, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, grâce à Internet, les gens peuvent voir ce qui se passe. Vous avez la Fédération de Russie, qui est, vous l'avez dit, un espace assez multiculturel, mais vivant en harmonie avec la religion musulmane. Est parfaitement toléré, il n'y a aucun problème.
C'est même pas toléré.
S'il y avait des problèmes
c'est
à l'époque,
c'était
des problèmes territoriaux.
Un exemple de vie réelle, voilà. Réussie c'est, entre différentes
tout à fait.
Religions.
Une harmonie, effectivement, un équilibre, et avec une centralisation du pouvoir qui a intégré ces notions et qui s'assure que cet équilibre est maintenu. Mais qui prend en compte, effectivement, les valeurs traditionnelles, le vivant, qui respecte la vie, qui ne promeut pas l'avortement sans que, en tout cas, l'acte en soi soit discuté profondément par la personne avec son praticien, pour ne prendre qu'un exemple. Hein, mais voilà. Qu'effectivement, une famille, c'est bien un homme et une femme. Et comme le président Poutine l'a dit même la semaine dernière, avec 8 enfants, ce serait bien aussi de revenir à ça, parce qu'on
a besoin.
Mais tout doit se faire sur des fondements qui sont pluriséculaires, et de pas essayer de créer une idéologie. La Russie a vécu une idéologie dans ses fondements hors sol, qui faisait fi de l'anthropologie même de l'homme, avec les résultats qu'on a vus. Donc elle est vaccinée contre ça.
D'accord. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Maître Arnaud Develay, je vous remercie pour tous ces éclairages. J'espère que nous avons réussi à poser cette problématique dans ses plus multiples facettes et se frayer un peu des voies de réflexion dans ce sens, dans le contexte actuel. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois, à très bientôt.
Merci à vous.
C'était Maître Arnaud Develet, juriste en droit international, consultant politique et journaliste indépendant. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.